Bienvenue dans Le Débat. Aujourd'hui, on se plonge en avril 1999. L'Algérie est malheureusement engluée dans ce qu'on appelle la décennie noire, une guerre civile d'une violence inouïe.
Ouais, une période extrêmement sombre, en effet.
Absolument. Et au milieu de ce chaos, le président Lamine Zeroual jette l'éponge et écourte son mandat. À la veille de la nouvelle élection présidentielle, coup de tonnerre.
Les 6 candidats de l'opposition qui se retirent, tous d'un coup.
C'est ça, ils se retirent d'un bloc le 14 avril, laissant Abdelaziz Bouteflika complètement seul en lice. Alors, je suis persuadée que c'est l'exemple parfait d'une élection totalement préfabriquée par l'armée pour s'offrir une simple façade civile.
Eh bien, je vois les choses différemment. Je suis convaincu que c'est bien plus complexe. C'est au contraire l'émergence d'un stratège, d'un leader autonome qui a fini par retourner la situation contre ses propres créateurs.
Bon, je veux dire, regardons un peu la mécanique de cette fameuse façade. L'armée était vraiment sous le feu des ONG internationales. On exigeait des comptes sur les exactions.
La pression extérieure était colossale, oui.
Voilà. Donc, il leur fallait un président civil, présentable, pour rassurer à l'étranger. Et la machine d'État s'est mise en marche pour verrouiller sa victoire. Les figures historiques, comme Aït Ahmed ou Amrouche, ne se sont pas retirées par caprice.
Non, bien sûr que non.
Elles venaient de documenter une fraude à échelle industrielle. Des walis, donc les préfets locaux, qui mobilisent toute l'administration. Des urnes scellées avant même l'ouverture et des militaires qui votent en rang serré sur ordre sans isoloir. Le vainqueur était purement et simplement désigné d'avance.
Alors la fraude institutionnelle, personne ne la conteste. Mais l'erreur, selon moi, c'est de croire que Bouteflika subissait cette manœuvre, ou même qu'il s'en contentait.
C'est-à-dire ?
Bah, rappelez-vous qu'il est l'ancien diplomate flamboyant de l'ère Boumédienne. Quand on vient le chercher en exil, il négocie âprement. Il refuse publiquement d'être, je cite, un président aux trois quarts.
D'accord, mais les discours de campagne, ça reste...
Mais pendant la campagne, il n'adopte pas du tout une posture de subordonné. Son ton est martial, il promet la concorde civile, il recadre même son auditoire. En fait, il répondait à une véritable soif de stabilité de la population. Il n'était pas une marionnette, il avait son propre agenda.
Je veux bien entendre l'argument du leader fort, mais comment on peut parler d'autonomie quand les chiffres officiels sont une pure fabrication? Le lendemain du scrutin, le ministère annonce plus de 60% de participation.
Officiellement, oui.
Alors que les opposants et même certaines fuites internes à l'armée l'évaluaient plutôt autour de 20 ou 23%. Les journalistes étrangers décrivaient des rues fantômes.
C'est vrai que le contraste était saisissant.
C'est l'équivalent d'une OPA hostile en entreprise, en fait, hein. Les 6 autres candidats ont soudainement refusé de déclamer un texte truqué. Le conseil d'administration militaire a écrasé tout le processus pour installer Bouteflika de force sur le trône.
Alors, filons votre métaphore de l'OPA. Sauf que dans ce cas précis, c'est le nouveau PDG qui finit par prendre le conseil d'administration en otage.
Vraiment, hein ? Il prend l'armée en otage.
Absolument. Vous parlez du retrait massif des candidats comme d'une preuve de l'omnipotence de l'armée. En réalité, ce 14 avril a provoqué une panique absolue chez les décideurs militaires.
Une panique ? Mais pourquoi ? Ils avaient un boulevard pour leur candidat.
Parce qu'une élection avec un seul candidat, à la soviétique, ça ruinait instantanément leur fameuse stratégie de légitimation internationale. Bouteflika le comprend immédiatement.
Ah, il voit la faille.
Exactement. Furieux à l'idée d'hériter d'une victoire ternie, il menace de tout plaquer. De se retirer lui aussi. Et que se passe-t-il alors? Ce sont les généraux qui doivent intervenir en urgence. Ils viennent le supplier de maintenir sa candidature.
Attendez, vous voulez dire que l'institution la plus puissante du pays, celle qui tenait les urnes, s'est retrouvée à supplier son propre candidat de rester?
C'est exactement ça. Et c'est à ce moment précis que la bascule s'opère. Le rapport de force s'inverse. Bouteflika tient la survie de leur plan entre ses mains. C'est lui qui dicte les conditions.
C'est vrai que l'image de l'état-major contraint de retenir son candidat par la manche, ça change la perspective. Malgré tout, je ne peux m'empêcher de voir ce scrutin comme une immense occasion manquée.
Sur le plan démocratique, oui.
Oui, la fraude et le retrait des candidats ont confisqué le choix des électeurs. Le pays avait un besoin vital d'une vraie sortie de crise, d'un processus transparent, et il a eu droit à une parodie démocratique dont le résultat était scellé à l'avance.
C'est une parodie si l'on s'arrête au simple fonctionnement électoral. Mais d'un point de vue purement politique, c'est la naissance implacable d'un règne. Observez la cérémonie d'investiture du 27 avril. Les généraux sont assis dans l'assistance, silencieux. Ils sont persuadés d'avoir placé leur homme de paille. Ils se trompaient lourdement. L'homme qu'ils pensaient manœuvrer posait ce jour-là les bases de ses 20 années de pouvoir.
L'illusion du contrôle, en somme. L'armée croyait s'acheter une vitrine présentable. Elle a fait entrer un homme qui allait s'approprier tout l'édifice. C'est fascinant de voir comment ces transitions politiques échappent à leurs propres architectes. Voilà qui laisse matière à réflexion sur la véritable nature du pouvoir. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce débat.